Bonjour Enrique et JB, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio C2L pour la matinale 6-9 au sommaire de notre journal local et régional. En ce samedi 24 février, 12 candidats sur la ligne de départ pour l'élection législative partielle dans la 4e circonscription. Conseil départemental, les orientations budgétaires 2018 présentées aux élus interviendra du 28 au 30 mars prochain. Région Centre, Val-de-Loire, Salon d'agriculture, une vitrine pour les produits bio. Football Ligue 2, 27e journée. Score de parité, un but partout entre Tours et Orléans. Enfin les rendez-vous sportifs du week-end. 12 candidats sur la ligne de départ pour l'élection législative partielle dans la 4e circonscription, suite bien sûr au recours déposé par Mélusine Harlé, La République En Marche. L'élection de juin 2017 qui avait vu la victoire du député sortant Jean-Pierre Door, Les Républicains, avait été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il avait précédé sa principale adversaire de 7 voix. Eux deux se retrouvent en lice donc pour le futur scrutin des 18 et 25 mars prochains. Il convient d'ajouter 10 autres candidats, pour certains déjà sur les rangs à l'été dernier. Jalila Caboret pour le Parti Socialiste, Ludovic Marchetti pour le FN, Dominique Clerc, Lutte Ouvrière, Luc Becheton pour Debout la France. Entre dans la compétition Bruno Notin jusqu'à la suppléante de Franck de Meumont qui monte désormais en première ligne, mais aussi Laurent Chailloux, Union Populaire Républicaine, Nicolas Rousseau, Force Nationale, Jérôme Schmitt, France Insoumise, Frédéric Chaouat, Sans Étiquette et Joël-Pierre Chevreux, Mouvement Hommes, Animaux, Nature. L'on ne comptait que 11 candidats le 11 juin dernier. Conseil départemental, les orientations budgétaires 2018 présentées aux élus interviendra du 28 au 30 mars prochain. Le rapport des orientations budgétaires, donc le ROB, a été soumis hier aux conseillers départementaux. En préambule, Marc Godet, président, rappelle que l'État encadre désormais les départements dans leurs dépenses de fonctionnement au motif de réaliser 13 milliards d'économies d'ici 2022. Une contractualisation jugée pour le moins contraignante alors que le Loiret a déjà fait des efforts conséquents pour réduire la dette. Pauline Martin, première vice-présidente, dévoile les axes majeurs du futur budget qui s'équilibrera à environ 690 millions d'euros. On peut retenir une progression modérée des trois allocations individuelles de solidarité, revenus de solidarité active, le RSA, allocation d'autonomie pour les personnes âgées, l'APA, prestation de compensation du handicap, PCH, l'augmentation du flux de mineurs non accompagnés, MNA, pris en charge par le département, génère pour partie l'augmentation des frais d'hébergement, plus 3,8%. Au sujet des coûts liés aux jeunes clandestins, Christophe Chailloux du Parti Socialiste invite les départements à poser de manière très forte collectivement un certain nombre de conditions à l'État, sans négliger pour autant l'aspect social. Et au sujet de la bonne tenue des comptes financiers, le chef de file de la minorité départementale rappelle à dessein que le département a augmenté les impôts en début de mandat. En fin de session, les élus ont adopté une motion qui dénonce les diverses incohérences de la nouvelle carte agricole des zones défavorisées. Hugues Sory regrettant que des mesures d'accompagnement n'aient pas été proposées en parallèle. Région Centre, Val-de-Loire, Salon de l'agriculture, une vitrine pour les produits bio. Si le bio ne représente qu'environ 6% de la surface agricole utile française, il séduit, oui, de plus en plus les consommateurs, d'où sa représentation au Salon de l'agriculture. Des produits bio cultivés en région Centre, Val-de-Loire vont se retrouver donc à Paris cette semaine et celle qui suit. Les Panneaux Bio du Val-de-Loire et l'agence bio s'associent pour la troisième année afin de proposer des ateliers cuisine aujourd'hui, demain, lundi et mercredi 28 sur le stand de la Agence Bio, pavillon 4. Véronique Bourf-Rivière, journaliste et animatrice culinaire, leur prête main forte pour présenter en direct différentes recettes sous forme d'ateliers. Entrées, soupes, plats seront donc concoctés à partir de légumes produits par des maraîchers de la région, dont le jardin de Cocagne, Solem Bio d'Orléans. Des fiches recettes seront aussi distribuées et les plats proposés à dégustation. 80 kg de betteraves, carottes, céleri, choux, échalotes, ignames, de la mâche, des oignons, des panais, poireaux, pommes de terre, radis et topinambours vont servir aux recettes. Comme le met en avant Céline Lacour de l'association Val Bio Centre, le salon de l'agriculture est une belle vitrine pour nos produits. Ils sont mis en valeur au travers des ateliers, ce qui permet de démontrer au public que l'on peut faire de bonnes recettes avec des ingrédients simples, en peu de temps, et que les bons produits ont du goût. Et d'ajouter, c'est aussi le moyen de se faire connaître et de valoriser notre offre de panier auprès du public parisien, sachant qu'on livre sur Paris et l'Île-de-France. Les producteurs de l'association Val Bio Centre commercialisent en effet leurs fruits et légumes en circuit court via les paniers bio du Val-de-Loire depuis 14 ans. 4000 paniers sont livrés chaque semaine dans le Loiret et en Île-de-France. Sachez donc que le salon de l'agriculture, eh bien, ça démarre aujourd'hui au Parc Expo, porte de Versailles à Paris, et s'achève dimanche 4 mars, ouvert tous les jours de 9h à 19h. L'agriculture, une aventure collective, c'est la thématique du salon cette année. La région Centre-Val-de-Loire, il y a un stand dans le hall 2-3. Tarif 7 euros pour les 6-12 ans, 14 euros pour les adultes. Plus d'infos sur www.salon-agriculture.com. J1, le rapport Spinetta ne passe pas du tout. Ce rapport remis au gouvernement pour rappel le 15 février dernier consacre-t-il l'émergence d'une France à deux vitesses, d'un côté celle des grandes métropoles desservies par le TGV et de l'autre celle des campagnes désertées par le service public. Pour l'association des Amis du Rail, JNOA, l'ARG, la réponse est oui. Elle estime que la SNCF ne peut plus faire l'impasse sur une réforme. Les directives européennes sur la concurrence et les enjeux financiers l'y obligent vers l'émergence d'une France à deux vitesses. Toutefois, l'association ne veut pas que cela se fasse au détriment de la mission de service public et d'aménagement du territoire national qui est celle de la SNCF. L'ARG insiste aussi sur le rôle garant de l'État. Elle constate déjà son désengagement au profit des régions. Le rapport Spinetta relève une vision purement comptable et parisianiste du problème, indique la RG dans un communiqué. Elle prévoit avec un tel dispositif l'abandon des lignes dites secondaires et dont l'exploitation est déficitaire. Ce à quoi répond la RG, il ne saurait y avoir de demande quand il n'y a pas d'offre susceptible de répondre aux besoins des populations. Elle souhaite donc avant toute chose que des études soient menées afin d'améliorer la situation sur ce type de desserte. Pour l'ARG, il n'est pas question que le projet de liaison ferroviaire entre Orléans, Gien et Briare soit remis en cause. Cette ligne lui paraît essentielle pour le désenclavement du Giennois par rapport à Orléans. Elle devrait aussi permettre le rattachement de la ligne Paris-Nevers au reste du réseau régional centré sur l'ouest orléanais. L'ARG attend des assurances rapides quant au maintien de ce projet de la part de la région Centre-Val de Loire, compte tenu bien sûr des incertitudes nées du rapport Spinetta. Loris, l'atelier du Fossaire au musée de la Résistance et de la Déportation. Les animations durant les vacances scolaires au musée départemental de la Résistance et la Déportation à Loris sont prévues les mardis 27 et le 6 mars à 14h30 sur le thème de la Résistance avec l'atelier du Fossaire. Après une visite guidée sur la Résistance locale, les visiteurs en herbe pourront donc produire eux-mêmes de faux papiers et comprendre leur utilité ainsi que les risques encourus par la Résistance. C'est dès 7 ans et sur réservation, durée 2 heures, matériel fourni. Tarif adulte plus de 18 ans, 6 euros. Enfants de 7 à 18 ans, 2 euros. Enfants moins de 7 ans, gratuit. Personnes en situation de handicap, 2 euros. Et gratuité pour son accompagnateur. Anciens combattants et déportés, gratuit également. Les horaires, le 27 février et le 6 mars, de 14h à 17h. Pour plus d'infos, bien sûr, musée de la Résistance et de la Déportation de Loris, esplanade Charles de Gaulle, 45 260 Loris, téléphone 02 38 94 84 19 ou sur le site loiret.fr, www.museeloris.fr. La Maison de la Forêt de Peaucourt propose jusqu'au 11 mars de multiples activités sur le thème des oiseaux, exposition matérielle et immatérielle du mercredi au dimanche, représenter un oiseau avec toutes ses couleurs, partir de la naturalisation et décliner avec des techniques de représentation en relief jusqu'à plus innovantes, stéréographie 3D, quadri-holographie, et pour aller encore plus loin, une transformation d'image en son, matériel immatériel, est une exposition donc combinant les recherches scientifiques et artistiques autour des techniques innovantes de représentation en trois dimensions d'un animal et de son image. Atelier hologramme sur réservation les 28 février et 7 mars à 14h30. Découvrez là le temps d'un après-midi le concept d'hologramme et créez vous-même votre hologramme personnalisé de la forêt. Une découverte autour du laser et de l'image en trois dimensions. Tout public à partir de 7 ans, durée 1h30. Enfin, atelier fabrique ton nichoir sur réservation les premiers 2, 8 et 9 mars à 14h30. Construisez-la en famille une cabane en bois. Tous les outils nécessaires à la réalisation sont fournis afin de repartir avec son nichoir. Il vous sera aussi apporté tous les conseils nécessaires quant à la pose, au suivi et à l'entretien de votre aménagement. Tout public, là encore, à partir de 7 ans, durée 1h30. Pratique donc, tarif atelier et sentier en forêt, 5 euros. Atelier et sentier en forêt, gratuit pour les moins de 7 ans. Exposition 3 euros adultes, 2 euros enfants. Renseignements et réservations au 02 38 98 17 59. Horaire de 9h à 12h et de 14h à 17h du mercredi au dimanche. Football Ligue 2, 27e journée, score de parité un but partout entre Tours et Orléans. Si souvent piégeux et guère accueillant pour l'US Orléans depuis de très nombreuses années, le stade de la Vallée du Cher n'a pas rimé avec défaite hier soir. Les joueurs de Didier Olé Nicole ont su aller chercher le match nul après avoir été menés au score dans ce derby de la Loire, même s'ils auraient pu arraché la victoire en fin de match. Le partage des points obtenus leur permet d'ajouter une unité de plus à leur série de matchs sans défaite, à savoir 5, et de continuer ainsi d'avancer un peu plus vers le maintien. À l'issue de cette journée, l'USO pointe à la 12e place avec un total de 35 points, soit 13 longueurs d'avance sur le premier relégable Quevilly-Rouen. Prochain rendez-vous pour Orléans avec un déplacement cette fois chez le 13e au classement, à savoir Valenciennes. Allez, terminons cette fois avec les rendez-vous sportifs du week-end. Patrice Avzar.
Un week-end sportif avec du canicross, du foot ou encore du handball. Et débutons justement par le handball pour ce soir à Montargis à 19h au gymnase du Puiseau en excellence régionale. L'Amanda reçoit Saint-Cyr. Côté football, trois rencontres à vous annoncer pour demain. Tout d'abord en quart de finale de la Coupe du Centre à Montargis au stade Maurice Béraud à 15h. L'USM Montargis sera opposé au FC Vierzon en Régional 1 à Amiens au stade Georges Clérisseau, également à 15h pour demain. Les J3 reçoivent le Blois Foot 2. Et enfin, en Régional 3, c'est la poule A à Ferrières à 15h. L'entente gâtinaise sera opposée à l'USMR. Et enfin, du canicross pour demain avec le premier canicross des Louveteaux à Poucourt, qualificatif pour les championnats européens. Sept courses sont au programme, cani VTT et canicross. Canitrotte, c'est de la trottinette, canimarche sur 5 et 6 km, ainsi que des canis enfants et un canicross court sur 2 km. Et tout cela, c'est à partir de 8h au stade de Paucourt.
Eh bien, c'est la fin de notre journal local et régional en ce samedi 24 février. Merci de votre attention. On poursuit cette fois avec la météo du jour.
La météo, c'est de zèle.
Si les thermomètres affichent des valeurs négatives, une partie de la matinée, ils gagnent 1 ou 2 degrés l'après-midi par rapport au jour précédent. Nébulosité et éclaircie s'équilibrent tout d'abord, mais une amélioration aboutit à un bon ensoleillement pour la fin d'après-midi. Du côté des températures, donc, moins 3 au mercure pour les minimales, avec seulement 6 degrés cette fois pour les maximales.